L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Olá, chers auditeurs et auditrices de Rencontres Lusophones, Boitalt Todos. Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lusophonie. On vient d'entamer notre deuxième mois de confinement et pour nous une cinquième émission enregistrée chacun de l'autre côté puisque nous confinons séparément. Aujourd'hui, c'est Manu qui a préparé et enregistré la grande chronique culturelle qui va porter ce soir sur l'esclavage. Alors, il faut dire que le passé colonialiste du Portugal n'a pas toujours été très glorieux, puisqu'il rappelle au pays qu'il s'est livré pendant des siècles et des siècles au commerce d'esclaves. Un sujet longtemps tabou, mais dont il faut parler, puisque aussi honteux qu'il soit, il fait quand même partie de notre histoire. Ce soir, c'est donc Manu qui s'y colle. Quant à moi, dans le billet d'humeur, j'ai essayé de commenter une affaire qui, cette semaine, a fait grand bruit au Portugal, puisqu'elle a ravivé le vieux cliché de la région nord du pays. Vous verrez, c'est une affaire pas piquée des vers.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. Le torchon brûle entre Lisbonne et Porto. Eh oui, c'était cette semaine au Portugal où les vieux clichés ont encore souvent la dent dure. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire devant le tollé levé par un reportage diffusé lundi dernier sur TVI, l'une des plus grandes chaînes de la télé portugaise. Figurez-vous que ce reportage, traitant de l'évolution du coronavirus au Portugal, a affirmé que sur les 17 500 cas positifs au Covid-19 recensés dans le pays, plus de 10 000 se trouvent dans le nord. Ajoutant que si cette région est la plus touchée, c'est parce que sa population est entre guillemets la moins éduquée. Oh là là, il n'en fallait pas moins pour raviver ce vieux cliché sur la région nord du pays. Alors il faut dire aussi qu'en ces temps de pandémie, le Portugal suscite bien des interrogations de la part des autres pays européens qui se demandent pourquoi ce petit pays est pour l'instant un peu moins touché que les autres par le coronavirus. En tout cas, nettement moins que son voisin espagnol. Ça, c'est pour le questionnement international. Parce qu'au sein même du pays, il y a un autre mystère qui demeure et qui est à l'origine de cette vive polémique dont je viens de vous parler. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le Nord constitue à l'heure d'aujourd'hui le principal foyer de contamination du pays? Ni une ni deux, la chaîne TVI a sa petite idée, affirmant que si la région vient de franchir le seuil des 10 000 personnes infectées, c'est-à-dire 60% de toutes les personnes contaminées du pays, c'est tout simplement parce que c'est la moins éduquée, la plus pauvre et la plus âgée du pays. Une explication très polémique qui, vous vous en doutez bien, a immédiatement suscité un tollé médiatique et des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Rui Moreira, le maire de Porto, a aussitôt accusé la chaîne TVI de portophobie et a même demandé des excuses publiques. Alors les excuses exigées n'ont évidemment pas tardé à venir, elles ont même ouvert dès le lendemain, mardi soir, et ça c'est plutôt inédit, le grand journal de 20h de la chaîne. Sérgio Figueiredo, le directeur de l'information de la dite chaîne, a évidemment convenu qu'il s'agissait d'une grossière erreur et que les propos étaient très mal choisis. Mais ces excuses publiques n'ont fait qu'attiser le feu. Et la chaîne RTP1 n'a pas manqué d'attaquer sa concurrente privée en affirmant que le coronavirus ne distingue ni l'éducation, ni la culture, ni les points cardinaux, ni même la prononciation. En réaction à cette polémique, un professeur de droit à la faculté de Porto a même écrit une tribune pour rappeler aux Portugais que la région nord du Portugal a toujours donné et continue à donner au pays. Il a même invité les Lisboètes qui se sentent supérieurs à, je cite, « dépasser cet esprit de clocher, ridicule et mesquin », avant d'asséner que diviser les gens en cette période particulièrement difficile, ce n'est pas très intelligent, ce qui n'est pas faux. Thank you.
caminos abertos para prever qualquer viagem, virada para os quatro pontos dos cardeais das aranhas. Quatro caminhos perdidos, quem sabe até se existir, estão no rastro de outros passos que deles não se serviram. Quatro caminhos à espera do tempo que os vem trazer. Dois foram dados à vida e outros dois ao morrer. Quatro caminhos traçados aqui na palma da mão para ver vidas e mortes, dias sim, dias não, dias sim. Seguem-me dois, quatro caminhos arados pelos terrenos do peito. Depois de tanta canseira, nasceu o amor perfeito. Quatro caminhos à espera do tempo que os vem trazer. Dois foram dados à vida.
L'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
L'esclavage est aussi vieux que l'humanité, c'est ce que l'on nous répète dans les livres d'histoire. Dès qu'il y a eu des hommes, et plus spécialement des Homo sapiens, il y a eu des esclaves. Est-ce aussi simple que cela? Sûrement. Chez les hommes préhistoriques, on faisait la guerre entre clans, que l'on faisait des prisonniers, on les transformait en hommes serviles, corvéables à souhait. Les archéologues ont trouvé les preuves que toutes les civilisations qui nous ont précédés pratiquaient l'esclavage, que ce soit les Mésopotamiens, les Grecs ou bien les Romains, et tant d'autres. Une exception peut-être, ce sont les Égyptiens. Leurs pyramides auraient été construites par des hommes, soi-disant libres, et non des esclaves. Ils étaient payés et nourris. Mais en vérité, leur vie dépendait beaucoup du bon vouloir de Pharaon, qui avait le droit de vie et de mort sur chacun d'eux. Et leur sort n'était pas plus enviable que l'esclave qui était au service d'un citoyen romain. On pourrait les apparenter aux serfs du Moyen-Âge, qui vivaient grâce aux bons soins du seigneur du coin. De leur côté, les Arabes en Méditerranée et en Orient pratiquaient allègrement l'esclavage. Cela pouvait aller du blanc, capturé lors des attaques, ou bien du noir, qu'ils achetaient bien souvent à des tribus africaines, qui avaient fait des prisonniers d'autres clans, suite à des conflits locaux entre de petits rois africains. Plus tard, entre le début du XIIIe siècle et le XIVe siècle, le principal coin esclave de la Méditerranée, si j'ose dire, était la mer Noire. Mais déjà dans la péninsule ibérique musulmane, on compte de nombreux esclaves en provenance du Soudan et de la Guinée. Puis une fois la chrétienté revenue au Portugal et en Espagne, et la reconquête progressant, on voit apparaître de plus en plus d'esclaves, maures et sarrasins. Mais en parallèle, on continue toujours de voir des noirs dans la population servile. Au XIVe siècle, à Lisbonne, on voit apparaître des quartiers entièrement dédiés à des races, tels à Mouraria, qui était le quartier arabe, ou Alfam, ou bien la Joadiaria. La ville devenait de plus en plus cosmopolite et on voyait dans les rues beaucoup de métis et de mulâtres. Bien souvent, l'esclave dormait dans la même chambre que le maître ou la maîtresse, et bien souvent, l'un rejoignait l'autre dans le lit pour se tenir chaud, mais pas seulement.
Morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia virá melhor que virá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu.
Et puis arrivèrent les grandes découvertes au XVe siècle, insufflées par Henri le Navigateur. Il faut bien se dire que Don Henrique était avant tout un homme ambitieux, et tout ce qu'il entreprit n'avait tout bonnement qu'un but lucratif. De plus, il disposait de ressources considérables. Au départ de Lagos, où il demeurait, lui et son frère Pedro envoyaient leur navire écumer les eaux du détroit de Gibraltar, en attaquant les bateaux arabes, entre autres. Puis l'infante, plus tard, on verra ses navires reconnaître vers le sud les côtes africaines. Madère et Porto Santo furent découverts en 1419, les Açores en 1427. Les Portugais atteindront l'embouchure du fleuve Sénégal en 1444, le pays des Noirs. À la mort d'Henri le Navigateur en 1460, les Portugais avaient atteint la Sierra Leone. Avec les premières découvertes sur les étals des marchés de Lisbonne, on commence à voir apparaître de nouvelles marchandises. De la gomme arabique, des civettes, des œufs et des plumes d'autruche, de l'ivoire, des peaux de phoque et d'antilope, et dans le domaine des matières de teinture, le bleu indigo. Puis, plus tard, du sucre, des céréales et du vin en provenance de Madère, où on avait au préalable envoyé des centaines d'esclaves noirs, originaires du Sénégal et des îles Canaries, défricher les terres pour planter de la canne à sucre, des céréales et des vignobles. Par la suite, le coton, la malaguette, une sorte de piment, et le poivre prendront le relais, toujours produit par le travail des esclaves. Toute cette population servile servira à peupler Madère et les Açores, qui, avant l'arrivée des Portugais, étaient désertes. Avec les années passant, un vrai commerce d'esclaves capturé dans de véritables campagnes de chasse va s'installer durablement. À partir de 1456, 1 millier de Noirs arriveront tous les ans à Lisbonne. De nos jours, on estime que rien que le Portugal, en l'espace de 400 ans, aurait déporté dans les 6 millions d'hommes. En 1477, sur la côte de la mine, on troque une mère et son enfant contre un plat à barbe et quelques anneaux de bronze. Les deux peuvent également être vendus à des marchands portugais contre 60 grammes de poudre d'or ou du moins l'équivalent. En l'espace de 20 ans, la valeur des esclaves va quintupler, ce qui n'empêchera pas la demande d'être de plus en plus forte, bien au contraire, et le commerce et la vente de noirs deviendra une activité très lucrative. Toute marchandise précieuse, et c'est ça qui est encore plus terrible, les esclaves étaient triés par âge et par couleur. En vérité, ils étaient divisés en trois groupes. D'abord, les non spécifiés, Généralement, c'était ceux dont on ne connaissait pas la provenance. Généralement, c'était généralement des Blancs. La majorité étaient des prisonniers de guerre. Puis, en seconde position venaient les morts, à l'exclusion de ceux qui sont classés comme noirs. Il y avait les Moros, les Blancs, les Alarves, de souche arabe, et les Canaris, qui étaient originaires des îles Canaries. Et puis, en troisième position, bien sûr, les Noirs, que les esclavagistes appelaient « negros », terme assez insultant, il faut bien l'avouer. Ce qui suit est un extrait du livre de Dejanira Couto, « Histoire de Lisbonne ». Il narre la première activité de cargaison d'hommes en provenance du Sénégal dans le port de Lagos au Portugal, le 8 août 1444. Il a transposé le récit du chroniqueur Gomes Inés Jurara, qui avait décrit la scène. C'est une population dans un pitoyable état que l'on déverse à l'aube du 8 août 1444 sur l'unique quai du port de Lagos, où réside Don Henrique. La foule qui avait appris deux jours auparavant le retour des cinq caravelles de l'expédition de Lanzarote et de Gélinès au Cap Blanc s'amasse sur le navire, sur le rivage. Dès que les voiles à la croix pâtée étaient apparues à l'horizon, tout le monde avait sauté dans les canots amarrés le long de la plage pour aller avertir parents et amis. Les capitaines de l'expédition sont reçus en audience par le prince dès leur arrivée. Ils racontent leur exploit, décrivent la longue traversée de 7 semaines et annoncent qu'une cargaison humaine s'entasse dans les cales du navire. Selon la coutume, l'infante doit recevoir le 5e des prises. On le prie de venir choisir son lot et dans les meilleurs délais, car les esclaves, traumatisés par la violence de leur capture et éprouvés par le long voyage, sont très malades. Pour éviter la chaleur, les captifs sont donc débarqués à l'aube par canot entier et amenés sur la place principale du village, où le marché aux esclaves se tiendra ensuite régulièrement. Aujourd'hui, il règne une atmosphère paisible dans cet endroit où les pavés luisent sous l'ombre mouchetée des palmiers. Un bâtiment discret, rebâti vers 1681 après un tremblement de terre, abrite au rez-de-chaussée une petite cour dallée entourée d'arcades de pierre. Les murs ont été blanchis à la chaux et les traces des anneaux de fer scellés dans les murs ont disparu. Ouverte au vent de la mer toute proche, la cour silencieuse reste le seul souvenir de ce commerce d'hommes qui dura jusqu'au XVIIIe siècle. L'aspect physique des captifs et leur couleur de peau déclinée sur tous les tons surprennent les Blancs. Maures, gouanches ou berbères tranchent sur la masse des azonègues plus foncés, des mulâtres et des noirs. Les derniers, assez nombreux, sont si disgraciés de visage et de corps que ceux qui les regardaient croyaient voir les images de l'hémisphère inférieur, provoquent des remous d'effroi ou de curiosité. Ces êtres que la foule assimile à des bêtes affichent pourtant un comportement singulièrement humain. La tête baissée, ils gémissent, pleurent, crient. Les uns lèvent les yeux vers le ciel, comme s'ils imploraient une divinité, murmurent des litanies incompréhensibles. D'autres se frappent le front ou se jettent par terre. Le paroxysme atteint son comble quand les hommes de l'infante séparent les familles. Pour que les lots soient équitables, on arrache les enfants aux mères, on écarte les maris des femmes. Si les hommes adultes trop accablés se laissent faire sans grande résistance, il en va tout autrement des femmes, qui s'accrochant désespérément à leurs enfants, ne bougent pas sous les coups qui pleuvent. Les cris des captifs, les vociférations de leurs geôliers sont rapidement couverts par la clameur d'une foule, de plus en plus déconcertée. Du haut de son cheval, main gantée sur l'encolure, Don Henrique, entouré des gens de sa maison, distribue les grâces et veille aux tri. Des 46 captifs qui lui échoient, il ne prendra qu'une poignée. Les autres sont acheminés vers Lisbonne ou dispersés à travers le pays. Seuls deux hommes, un adulte et un jeune garçon, échappent à la destinée de leurs compagnons d'infortune. Le premier, le meilleur, dit le chroniqueur Gomes Inés Jurara, qui a décrit la scène, est offert à l'église de Lagos. Le second, envoyé au monastère du Cap de San Vicente, rentre dans les ordres et sera fait moine franciscain.
Olha o medo, olha o medo, olha o medo, medo.
Après la mort de l'infante, le roi Alphonse V continue les explorations en 1471. Ce sera les côtes du Ghana, puis la Côte d'Ivoire. Dans ces pays, l'or est d'excellente qualité. Les Portugais vont vite commercer avec les habitants de Côte d'Ivoire. En échange de l'or, ils donneront des esclaves capturés au Bénin. 10 ans après cette découverte, le nouveau roi du Portugal, Jean II, y fera bâtir Saint-Jean-de-la-Mine, la plus importante forteresse de toutes celles qui ont été érigées sur les côtes africaines. L'or de la mine qui va faire la fortune du Portugal, à tel point qu'en 1457, une nouvelle monnaie verra le jour, au Cruzado. Après la disparition d'Henri le Navigateur, la seigneurie de Lagos éclate, et tout est transféré à Lisbonne, au plus près du palais du roi. Les services de l'intendance et de l'organisation des expéditions maritimes, regroupés à la Casa da Rainha, sont transférés à Lisbonne en 1463. La Casa da Guinée, c'est de la même qui gère le commerce des esclaves en 1482. Suivi par la Casa da Mina, celle qui gère le bon fonctionnement des mines d'or en Afrique. Le quartier de Lisbonne, à Ribeira, où elles sont concentrées, devient le point névralgique de la ville. La fondation de la Maison des Esclaves, en 1486, consacrera la prépondérance du quartier pendant la période des Grandes Découvertes. Au fil du temps, Lisbonne a de plus en plus un caractère exotique. Les esclaves originaires de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Jaïre ou du Mozambique transforme réellement les rues de la cité. Les visiteurs qui arrivent pour la première fois dans la capitale la surnomment vite « Madre dos Negros », la mère des Noirs. Certains visiteurs affirment même que la part des Noirs dans la population est de l'ordre de 1/5, ce qui est exagéré. En 1551, des statistiques faites à Lisbonne évaluent à 1/10 la part des Noirs dans la population de la ville, ce qui à l'époque faisait quand même 10 000 personnes, ce qui déjà en passant faisait beaucoup. Toutes les familles nobles en possédaient 2 ou 3 dizaines. Les petits et moyens bourgeois et les commerçants, assez aisés, en possédaient généralement 3 ou 4, rarement plus de 10. Même les vendeuses de poissons de la Ribeira ont les moyens de s'acheter une esclave, qu'elles traitent avec mépris des cadavres, des chiennes. Les Maures et les Arabes, ayant la réputation d'être agressifs, ne sont pas admis dans l'intimité du maître. Contrairement aux Noirs, plus réputés dociles et de surcroît plus fidèles à leur maître. Les Indiens, ramenés du Brésil, résistaient mal aux travaux de peine et mouraient assez vite. Par contre, les Asiatiques sont très recherchés comme domestiques. Avoir chez soi un cuisinier chinois ou un majordome japonais devenait synonyme de grand raffinement.
Encarrilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou. Pele encarrilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou.
Era assim que mãe preta fazia, criava todos brancos com muita alegria. Porém lá na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava.
Mãe preta, mãe preta,
enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou.
Era assim que mãe preta fazia, criava todos brancos com muita alegria. Porém lá na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava.
Mãe preta,
chibata batia em seu amor. Mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Pele encardilhada, carapinha branca, gandola de venda caindo na anca. Pele encardilhada, carapinha branca, gandola de venda caindo na anca.
Ce qui suit est un nouvel extrait du livre de Dejanira Couto. Dans son histoire de Lisbonne, il fait transparaître la misérable vie quotidienne des esclaves à Lisbonne au XVIe siècle. Les Africains qui arrivent à Lisbonne ont fait la longue traversée nue au couvert de quelques hardes, attachés dos à dos sur le tillac, par l'eau de 25, 30 ou 40 individus. Beaucoup sont morts en cours de route, de dysenterie ou de pneumonie, en passant des zones équatoriales aux régions plus fraîches de l'Atlantique Nord. Les survivants sont d'abord amenés à la douane des sept maisons où le capitaine fournit la liste des prises. Ils sont ensuite dirigés vers les cachots, exovillas, où les acquéreurs négriers ou simples particuliers viennent faire leur choix. On examine d'abord leur dentition et leurs ongles pour avoir des indications sur leur âge présumé. Puis les malheureux doivent se livrer à une série d'exercices physiques, sauter, se pencher, etc. pour que leur futur maître puisse connaître leur état de santé. Les résultats de l'évaluation sont inscrits sur une plaque qu'on leur met au cou. Ceux qui ne trouvent pas tout de suite preneur sont enchaînés et conduits sur la place du vieux Pelori, ou Pelori Nouvelle, où ils sont vendus aux gens chers. Une fois sur la place, les pièces, espèces, se regroupent en cercle. La tête penchée vers le centre, ils se mettent à l'abri en dessinant dans la glaise des circonférences avec les pieds. Dès que leur geôlier relâche la surveillance, on les voit ramper vers un tonneau encore humide et se bousculent pour lécher les quelques gouttes d'eau qui suintent à travers les douves. Lorsque l'un d'eux cherche à s'enfuir ou fait mine d'éviter les coups des négriers, il est aussitôt puni. Ces punitions donnent lieu à des scènes d'une brutalité inouïe, qui font peur aux hommes, de sorte que les Lisouettes, les jours du marché aux esclaves, évitent la place du vieux Pelori. Lisbonne ressemble à un gigantesque échiquier avec autant de pièces blanches que de noires, constate un voyageur espagnol au début du XVIIe siècle. Les Africains, qui ont les tâches les plus dures, sont ceux qui déchargent les cargaisons des navires, bâtissent les églises et les couvents, nettoient les immondices dans les rues, lavent les paniers de poissons dans la rivière et enterrent les morts. Le statut des esclaves domestiques semble un peu plus favorable. S'ils ont de la prestance, on leur assigne des fonctions de représentation. Fidalgos et bourgeois ne sortent pas dans la rue sans être accompagnés d'un cortège de noirs. Habillés luxueusement, portant des piques, ceux-ci marchent devant ou derrière le maître. D'autres tiennent les bras des chaises à porteurs. On ne conçoit plus de réception digne de ce nom sans un ensemble de musiciens ou de danseurs africains, en particulier à la cour, où les visiteurs remarquent qu'ils servent aussi des chansons lors des réceptions royales. Indispensables dans la vie quotidienne, les esclaves font les courses, transportent l'eau, le bois et le charbon nécessaires aux cuisines. Même les familles modestes en ont un pour servir à table. La vie quotidienne favorise la promiscuité au sein des foyers. Sur le pas des portes, les jours de canicule, les Africains grattent les jambes de leur maître ou de leur maîtresse et les épouillent. Hommes et femmes, esclaves, couchent par terre dans la chambre des maîtres. Cette habitude assez généralisée provoque l'apparition de peaux plus claires parmi la domesticité de la maison, maisonnée. Les relations sexuelles ne concernent pas seulement le maître et ses esclaves de sexe féminin. L'inverse se produit aussi.
É difícil, é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. De negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. Meu amor, eu vou me embora nessa terra, vou morrer. Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que.
Bien sûr, nous n'allons pas finir la chronique sans parler du pays où on a importé le plus grand nombre d'Africains. Je parlais, vous l'avez compris, du Brésil. Les Portugais ont arraché de leur terre natale pas loin de 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants pour alimenter en main-d'œuvre les plantations de canne à sucre et les mines d'or de Minas Gerais et de Mato Grosso. Le Brésil, à lui seul, représente 40% des Africains qui ont fait la traversée de l'Atlantique. Eh oui, vous comptez bien. Cela veut dire qu'une dizaine de millions d'individus ont été réduits en esclavage dans les Amériques. C'est comme si de nos jours, on aurait pratiquement vidé de ses habitants un pays comme le Portugal. Cela commença en 1500, quand Cabral découvrit officiellement le Brésil. Pendant très longtemps, faute de moyens et étant occupé par la découverte de l'Inde et de la route des épices, le pays ne fut pratiquement pas exploré, et encore moins exploité. Mais s'apercevant que des Français et des Hollandais commencèrent à faire commerce avec les Indiens d'Amazonie, en ramenant du bois Brésil qui servait en teinture, les Portugais remirent la main dessus et chassèrent Français et Bataves qui ne voulaient pas se soumettre au roi du Portugal. Vers 1570, les Portugais commencèrent à planter de la canne à sucre et à partir de là, tout changea. Les Indiens autochtones ne supportaient pas les contraintes des plantations sucrières. Alors, changement radical, les colons utilisèrent des esclaves indiens qu'ils achetaient à d'autres tribus ethniques. Mais les Indiens étaient peu fiables et n'étaient pas assez résistants aux travaux pénibles. Beaucoup se laissaient même mourir de faim. Alors, pour alimenter les plantations et plus tard, à partir de 1693, les mines d'or, au total, pas loin de 1000 tonnes d'or ont traversé l'Atlantique direction Lisbonne. Les Portugais vont ramener en masse les esclaves noirs et un terrible triangle commercial se mettra en place qui sera reproduit à l'identique par d'autres villes négrières de l'Europe, telles Nantes, Bordeaux, Saint-Malo, Amsterdam et j'en oublie. Les bateaux partaient de Lisbonne avec toutes sortes de marchandises et de la verroterie vers la Guinée ou l'Angola. Là-bas, ils troquaient leurs marchandises contre des esclaves. Et puis, avec leurs cargaisons humaines stockées à fond de cale et enchaînées entre eux, ils traversaient l'océan Atlantique et sur place débarquaient leurs marchandises d'hommes et quelquefois de femmes et d'enfants, du moins ceux qui avaient survécu. Généralement, entre 10 et 20% des esclaves mouraient pendant la traversée. À Rio de Janeiro, ou bien à São Paulo, ou bien ailleurs, en échange des esclaves, les négriers recevaient de l'or et du bois Brésil, qu'ils ramenaient à Lisbonne. Certains l'ont appelé le triangle d'or. Personnellement, je leur ai donné un autre nom. Si le Portugal fut sans doute le premier pays européen à faire la traite des Noirs, certainement il fut un des premiers à l'abolir. En 1761, le marquis de Pombal met un terme à l'esclavage au Portugal et dans les territoires des Indes, mais il n'en est rien en ce qui concerne le Brésil. Même après son indépendance en 1822, le Brésil continuera la traite des Noirs. Ce n'est qu'en 1850, sous la pression internationale, que la traite sera arrêtée, conduisant lentement à l'abolition de l'esclavage le 13 mai 1888.
Deus dos deuses Ologun, movimento o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. É Deus dos deuses Ologun, movimento o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. O negro revela a grandeza, se o mundo não reina a tristeza, não. infinita beleza, o sétimo sentido da tal legião. Pelourinho é meu quadro negro, negro, retrato da negra raiz. Um canto singelo e divino traz simbolizando essa negra razão. Quem sou eu? Riba!
Negro!
Oi, oi, oi!
Negra!
Quem sou eu? Raça negra que oi, 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 oi.
Raça negra
chorou no pelo.
Raça negra
Bahia, Salvador.
Raça negra
Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. É Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro. É e africaniza o dom que compõe a natureza. O negro revela a grandeza, se o mundo não reina a tristeza, não. Infinita beleza, o sétimo sentido da tal legião. Pelourinho é meu quadro negro, negro, retrato da negra raiz. Um canto singelo e divino traz simbolizando essa negra razão. Quem sou eu? Riba!
Negro!
Oi, oi, oi! Quem sou eu?
Negro.
Oi, oi, oi.
Negra.
Raça negra que oi, 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 oi.
Riba! Raça negra
chorou no pelo.
Raça negra
o lodum rebentou.
Raça negra.
Raça negra que oi, 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 oi.
Raça negra
aí a Salvador.
Raça negra
que oi, 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 oi.
Raça negra.
Raça negra que oi, 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 oi.
Raça negra
choro no pelo.
Raça negra
Bahia, Salvador.
Raça negra.
Raça negra que oi, 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 oi.
Raça negra
choro no pelo.
Raça negra
o louco rebentou.
Lá vem a Alcatrineta, que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Sobe, sobe, Marujinho, aquele mastro real. Vê se vês terra de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terra de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima ao topo real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Maldíceras, capitão, meu capitão general. Já vejo terra de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo três meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a piar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas, ó quem mais der abraçar. A mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que eu não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou ensinar. Que queres do meu gajeiro, que alguíceras te hei de dar. Eu quero a Alcatrineta, para nela navegar. A não Catrineta amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu el rei gageiro, que te não pode negar. Que te não pode negar.
razão. Um castelo nunca será não.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone se termine pour aujourd'hui. Merci à Hélène pour sa petite chronique et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Rencontre lusophone à Kaboom, Amania Amaïch. Merci pour votre fidélité. On revient samedi prochain.
Pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission de ce soir, il y aura évidemment un rattrapage demain dimanche à 20h30.
Mais si vous ne pouvez pas réécouter demain, pas de panique. Vous avez encore la possibilité de nous écouter à partir du podcast disponible sur notre page Facebook Rencontre Lusophone au pluriel ou sur la page de Radio Résonance. Pour l'instant, restez chez vous, confinés. Sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien. À tes mailles.
Se ao longe achar que nunca vai servir, caguei os cusos de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o acordo do corda ao despertador. Thank you. chato nunca vai servir. Caguei os cursos de me aproximar.